Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Cette semaine, pour m'accompagner, l'homme qui a vu le panda, Raph. Comment ça va, Raph?
Eh bien, ça va très bien, effectivement, je suis l'homme qui a vu le chinois, qui a vu le panda. Et comment vas-tu, toi, Ringside, l'homme qui a vu le climax?
Ah bah moi ça va très bien, après ce fabuleux climax, G1 Climax de la New Japan Pro Wrestling, je vous engage tous, je vous invite tous à aller regarder ça si vous aimez le bon catch. Il y a rien à acheter, c'était parfait, les finales du bloc A, du bloc B, c'est des main events exceptionnels, une leçon de construction de main event, et la dernière journée, la finale, c'était sublimissime. Voilà, des vrais top stars, des vrais babyface, des vrais champions, il y a tout ce qu'il faut à la New Japan. On va même pas faire la comparaison avec la WWE, parce que là, on serait complètement perdant. Voilà,
c'est
donc
ce que
vous
j'avais...
aimez...
C'est ce que j'allais dire. Sans transition, parlons maintenant de Monday Night Raw.
Ben oui, parce que c'est ça, vous êtes fan de catch, mais vous n'avez pas eu le temps de regarder WWE Monday Night Raw, ou alors vous avez vu Monday Night Raw, mais vous ne savez pas quoi en penser. Eh bien, dans les deux cas, Catch Up, c'est le podcast qu'il vous faut. Parce qu'en effet, ici, toutes les semaines, on en résume et on analyse le show rouge de la WWE. Et pour nous retrouver, ben vous allez sur PodCloud, vous allez sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch, vous allez sur iTunes. On est aussi sur Twitter, CatchUpCDC. Et on est aussi sur Facebook, CatchUpCDC. Voilà, on attaque le gros morceau, le Go Home Show avant SummerSlam, le plus gros événement de l'été. Le Monday Night Raw du 14 août 2017 qui se passait à Boston. Au programme de ce soir, Sheamus et Cesaro ne maîtrisent pas l'art de la guerre. Alexa Bliss surveille la division féminine. Titus Worldwide affronte le roi Neville. Les Hardy Boys reviennent aux affaires. Bray Wyatt est un gros qui tâche. Et Brock Lesnar est victime d'une conspiration. Il y a du lourd ce soir. On peut le dire, c'est une soirée chargée. On démarre les affaires avec Dean Ambrose. Dean Ambrose qui débarque au ring. Il invite Seth Rollins, évidemment, à venir, hein, puisqu'ils ont une histoire à régler. On ne sait pas s'ils vont se réconcilier, les anciens alliés du Shield. Hein, on se souvient que Dean Ambrose avait été trahi par Seth Rollins il y a des années. Seth Rollins cherche à se réconcilier avec le Lunatic Fringe. Donc là, il tape la causette au milieu du ring, les deux, hein, parce que Seth Rollins finit par arriver quand même. Alors Rollins explique que, d'accord, Dean Ambrose fait semblant de ne pas s'intéresser à tout ça, de ne pas vouloir se réconcilier, mais il sait que derrière tout ça, il y a des sentiments. Et surtout, il explique que s'ils s'unissent, eh bien, ils seront les patrons hein, de la boutique. Hein. Il y a pas à chier, c'est eux ensemble, ça peut tout casser. Dean Ambrose, donc d'un grand jeu d'acting, nous sort une phrase "You gotta be kidding me, hein, tu te fous de ma gueule." C'est une vraie séquence Actor Studio, hein, cette intro d'Euro. Seth Rollins explique qu'effectivement, Dean Ambrose, tu peux pas me faire confiance. Enfin, t'as du mal à me faire confiance, mais parfois moi aussi, j'arrive pas à me faire confiance à moi-même. Il y a le poignant. On va tenter la réconciliation avec le fist bump, hein, on va se saluer avec les poings. Rollins semble lâcher l'affaire, mais finalement il refuse aussi de faire le fist bump, ça sera pas pour tout de suite la réconciliation. Mais ça énerve Ambrose. Donc ils finissent par en venir aux mains. Il y a une petite brawl complètement à chier qui s'ensuit. Et là, Sheamus et Cesaro, qui ont visiblement pas lu Machiavel, débarquent, hein, parce que leurs deux ennemis sont en train de se taper l'un sur l'autre, mais eux, ils préfèrent débarquer pour les séparer. Ils passent à tabac les anciens du Shield. Et évidemment, ils finissent par se faire repousser, puisque les deux anciens du Shield hein, finissent par s'unir pour faire fuir les champions tag team. Et donc évidemment à la fin du segment Ambrose et Rollins se réconcilient parce que c'est pas tout ça, c'est SummerSlam la semaine prochaine donc il faut peut-être en finir par se réconcilier pour avoir le tag team match. Donc voilà hein, une première partie très écrite avec beaucoup de dialogue là, déclamé par nos deux anciens compères du Shield. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça mon bon Raphaël?
Précisons d'ailleurs qu'en fin de segment, justement, Kurt Angle valide le tag team match pour le titre mondial à SummerSlam. Je ne sais pas si tu attendais de le dire un peu plus tard.
Non, j'avais mis une séparation, du coup j'avais oublié de le mentionner. Donc c'est très bien que tu le mentionnes, effectivement. Ouais, c'est vrai, le match est validé du coup, hein, par Kurt Angle lui-même qui débarque. Hein.
Bah écoute, là j'ai envie de dire que l'affiche est très intéressante. Seth Rollins et Dean Ambrose qui redeviennent ensemble contre Sheamus et Cesaro. Mais alors ouais, bah, la construction, je l'aimais pas la semaine dernière. J'avais notre ami Hank avait l'air un peu plus d'apprécier, mais là, ouais, c'était pas terrible. Ça faisait vraiment, c'était impossible de se mettre dans la peau et dans la tête des personnages, je trouvais. On comprenait pas pourquoi une fois Rollins s'il voulait bien. Mais après il voulait plus, et pourquoi Ambrose il voulait bien et après il voulait plus, et pourquoi ils se mettent sur la gueule, et effectivement Sheamus et Cesaro sont très très cons d'intervenir parce qu'ils auraient dû laisser faire, non? C'est très écrit mais très mal écrit et assez mal exécuté. Je suis un peu déçu, hein. Je sais pas si tu partages cet avis.
Ouais, je suis complètement d'accord. Les dialogues étaient nazes, l'acting était mauvais. Voilà, bah, c'est ce qui se passe quand on veut tout écrire, hein, que tout soit millimétré. Bah, ça donne pas forcément des bonnes choses, hein, ça donne un truc vraiment qui était surjoué, pas très logique au final, parce que tout ça est rushé, hein, au final.
Oui, on comprend pas.
Et voilà, ils étaient pas. Ouais, bah, il faut que ce soit booké pour la semaine prochaine. En fait, il y a beaucoup de choses que cette semaine.
C'est ça.
Qui ont été faits un peu à la va-vite dans la pleine précipitation. Bah ce segment de début, ça en fait partie. Les séquences de brawl étaient vraiment pas terribles, pas très joliment exécutées. Voilà, bah, j'ai pas été très convaincu par tout ça, mais bon, ça reste une affiche plutôt très très alléchante pour SummerSlam, parce que quand même avoir Cesaro, Sheamus, Dean Ambrose et Seth Rollins dans le même ring en même temps,
Ouais, ça a de la gueule.
ça peut quand même donner quelque chose d'assez exceptionnel, hein, parce qu'il y a du niveau
Ouais.
quand même. Donc ils sont voilà, il va falloir par contre là qu'ils nous sortent vraiment un gros match, hein, parce que sinon au final ça aura été une rivalité fadasse, précipitée.
Ça commence juste, hein, peut-être que ça va durer sur plusieurs mois ou autre, mais là pour le moment c'est. Ouais, bon. En fait,
Ouais,
et en fait,
c'est pas terrible.
ouais, ils nous ont fait chier avec ces faux suspens, quoi, parce que depuis le début, on savait qu'ils allaient se remettre ensemble et c'était pas la peine de faire tout ce cinéma.
Ouais, voilà, tout était assez prévisible. Ouais, j'ai pas l'impression que ça sent pas la patte de Vince McMahon. Là, j'ai l'impression que Vince, il s'occupe du main event actuellement et que le reste, bah, il laisse un peu ses subalternes s'en occuper. Et bah, on voit que, enfin, du moins, c'est une supposition, hein, tout ça fait très écrit, très sous-série télé, un petit peu, hein, moi, je trouve. Hein. Bon, allez, enchaînons, parce qu'on n'a pas toute la nuit. Une petite pensée pour Ric Flair, qui est dans un état inquiétant. Hein, il a été hospitalisé pour des problèmes de douleur au côlon et opération chirurgicale. Il a été placé dans un coma artificiel. Il n'est pas encore sorti d'affaire aux dernières nouvelles que j'avais. Donc voilà, les commentateurs nous notifient ça. Et puis nous aussi, on a une pensée pour le Nature Boy. Et on espère qu'il va vite retrouver la forme. Ensuite, on a le match des filles. Pour la déterminer le first contender, donc la challenger numéro 1, pour le titre d'Alexa Bliss, hein, le titre de championne de la division féminine. Et donc c'est l'opposition entre Nia Jax et Sasha Banks qui se sont qualifiées la semaine dernière. Alors on a une petite chaise d'arbitre là, un peu customisée, très très cheap, qui va servir à Alexa Bliss, hein, qui va surveiller le match du haut de son petit perchoir. Donc Nia Jax domine Sasha, assez longuement pendant le match. D'ailleurs, elle la fout au sol, juste avant la pub, d'une manière très violente, un écrasement. Au retour de la pub, c'est un écrasement contre la barricade à l'extérieur du ring, extrêmement violent aussi, qui sera exécuté par Nia Jax sur Sasha Banks. Un peu plus tard dans le match, Sasha Banks va quand même réussir à contrer le chicken wing press de Nia Jax avec un petit paquet. Sasha va survivre à deux Samoan Drops quand même. Une fois grâce aux cordes, elle va mettre son petit doigt dans les cordes. Et une fois en s'échappant du ring juste après s'être fait écraser. Alors après, on a une séquence dans le coin du ring. Il y a une tentative de superplex qui est contrée à coup de coude. Nia Jax chute. Elle se prend le double knee dans le coin du ring par Sasha. Sasha Banks qui finit par réussir à placer le bank statement. Nia la soulève. Mais Sasha, pour casser la prise, la piège dans un DDT. Et elle porte à nouveau le bank statement pour la victoire cette fois-ci. Nia Jax est obligée de taper. Donc voilà notre affiche de SummerSlam qui est bouclée. Nia Jax est éliminée. C'est Sasha Banks qui affrontera Alexa Bliss. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Raphaël ?
Le résultat est prévisible. L'exécution était pas trop mal, même si je fais pas partie des très très grands fans de Nia Jax. À part son physique, je trouve qu'elle a un peu du mal parfois. Elle a pas un très bon acting, je trouve. Et je sais pas, il y a eu des moments un peu bizarres. Enfin, les bank statements, ils étaient pas tous terriblement bien ajustés. Mais sinon, c'était un match correct, peut-être pas assez intéressant par rapport à l'enjeu. Moi, j'ai bien aimé. Le résultat reste hyper prévisible. Et là, bon, bah, on va avoir Sasha Banks contre Alexa Bliss. Donc, c'est une belle affiche pour un titre féminin de SummerSlam. Là-dessus, rien à dire.
C'est ça, au moins on aura les personnes qu'il faut pour le match de SummerSlam. Nia Jax, effectivement, qui est de moins en moins convaincante dans le ring. Hein. Il n'y a pas beaucoup de progrès. Et elle est toujours aussi dangereuse. Hein. Le coup où elle a écrasé Sasha dans le coin du ring, apparemment, elle n'en est pas sortie indemne, la belle Sasha Banks. On nous parle de quelques hématomes dans les news de ci, de là. Donc, peut-être une des catcheuses les plus dangereuses du roster, mais légite, Nia Jax. Ouais. Sinon, le match était tout à fait correct, plutôt bien écrit, plutôt bien exécuté. Voilà, on est content de voir Sasha affronter Alexa Bliss à SummerSlam. Maintenant, c'est un match pour sauver un peu les meubles, hein, puisque Bayley, je vous rappelle, a été blessé par la même Nia Jax et donc out of the game pour SummerSlam.
Oui,
donc remplacement à la dernière minute par Sasha Banks.
Est-ce qu'ils vont changer les plans? On verra. Et on en pronostiquera tout ça tout à l'heure. Donc restez connectés pour écouter nos vidéos de pronos.
C'est ça. The Boss versus The Goddess. Ça fait partie de ce SummerSlam dont on vous sortira le petit pronostic effectivement. Allez, retour au vestiaire, Kurt Angle et donc dans les vestiaires, les Hardy sont là aussi. Bon, ça discute un petit peu. Il y a le Miz qui débarque. Il n'est pas content d'avoir été piégé la semaine dernière par Brock Lesnar, hein, lors de son Miss TV où il s'est fait atomiser par The Beast en début de show. Ça fait glousser les Hardy. Alors, c'est pas du goût du Miz. Normalement, Kurt Angle explique que de toute façon, ce soir, Jason Jordan affrontera Curtis Axel, mais le Miz n'est pas d'accord. Il dit non, ce soir, Jason Jordan, il m'affronte moi. Il n'y a pas de raison. Donc ça chamaille un petit peu, mais tout ça est interrompu par un assistant de Kurt Angle qui vient lui dire qu'il y a un problème en coulisses entre Finn Balor et Bray Wyatt. On se précipite, ils sont en train de se foutre sur la gueule. Kurt Angle les somme de se calmer, d'attendre SummerSlam, mais ils n'y arrivent pas, ils sont fous furieux. Donc il s'énerve, il dit bah écoutez, on n'attend pas SummerSlam, parce que c'est comme ça, le match c'est ce soir. Et donc, on a un match entre Bray Wyatt et Finn Balor qui est booké tout de suite pour ce soir. Donc, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Voyons voir. Ben, allez, on va sauter tout de suite à ce SummerSlam avancé avant l'heure.
Allez.
Un affrontement entre le Mangeur de Monde et le Demon King. First time ever, hein. C'est bien marqué sur l'affiche. Hum mm-hmm. C'est pas non plus un match phénoménal, hein, ça catch un peu des deux côtés, bon, toujours les dropkicks, etc. de Finn Balor, très sautillant, et puis Bray Wyatt, hein, plutôt tout en puissance. Et au final, après un shotgun dropkick à l'extérieur du ring de Finn Balor, il va tenter le coup de grâce, hein, le Demon King. Mais il est contré par Bray Wyatt qui le fait chuter du poteau. Voilà, Baylor s'écrase les coucougnettes sur le poteau. Il est pris dans le Sister Abigail. Il ne se relèvera pas du Sister Abigail. Bray Wyatt gagne clean. Et après le match, il nous sort un deuxième Sister Abigail pour bien achever Finn Balor. On joue avec les lumières, histoire de faire peur un peu à la foule. Et on se retrouve avec Finn Balor dans le coin du ring, affalé, sonné, et Bray Wyatt avec un seau, hein, tel le premier Godwin venu, un seau qui va verser sur la tête de Finn Balor, et c'est quelque chose qui est censé être du sang, je pense, qui est versé sur la tête de Finn Balor, qui est,
oui,
qui est choqué,
ressemble.
Apparemment ça le brûle, et voilà, il se roule par terre, il est vraiment mal à l'aise, il est humilié. Un peu plus tard dans l'émission, on le retrouvera dans les vestiaires, et on apprendra donc qu'il a réussi à signer un rematch pour SummerSlam, donc on aura bien notre match Finn Balor, Bray Wyatt quand même à SummerSlam. Et il explique que cette fois-ci, il va faire comprendre à Bray Wyatt que Finn Balor, lui aussi, il a ses démons. Donc clairement, on aura le démon Finn Balor contre Bray Wyatt pour SummerSlam. Qu'est-ce que tu as pensé de ce remake de Carrie au bal du diable?
Au début, j'étais un peu étonné, parce que je trouve que ça colle pas du tout au personnage de Bray Wyatt de se mettre sur la gueule dans des vestiaires, à côté des tables. Enfin, il est tellement mystique que là ça faisait ça faisait Brock Lesnar, tu le comprends, mais Bray Wyatt ça va pas trop à son style. Après le, comme tu l'as dit, tout était assez surprenant qu'il nous boucle le match comme ça. Bon, pourquoi pas, que Bray Wyatt gagne clean en même pas 10 minutes, ok, donc ça prouve que ça confirme ça. Finalement, sa très bonne année 2017, hein, il a été champion du monde, il a battu clean Seth Rollins, là il continue. Et après, ils sont allés chercher quelque chose que j'aurais dû. Ouais, j'ai un peu du mal à avoir une opinion. Cette histoire de peinture rouge. Alors, on sait pas si c'est du sang. C'est vrai que Finn Balor il mimait la douleur. Moi, je me suis dit, c'est pas de l'extrait de piment ou je ne sais pas, un truc qui brûle. Bref.
Je crois qu'ils ont dit dans les commentaires que c'était un liquide acidulé.
Un liquide acidulé. C'est mignon. C'est du lollipop, c'est de la...
C'est voilà. Moi, je pense pour du jus de groseille.
Ah
hein,
ouais,
oui. Du fruit rouge, hein. Ça ressemblait à ça.
Très épais quand même. Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, dans la précipitation, là, il nous a sorti quelque chose qui va vraiment faire sortir Finn Balor de ses gonds, et du coup, on va avoir le démon. Mais oui, voilà, c'est quoi. C'est juste une semaine avant et c'est très ponctuel. C'est pas très construit dans le temps. Le démon va arriver. Un peu comme ça, brut de décoffrage, sans vraiment de construction.
Ouais, alors c'est bien qu'ils aient attendu jusque SummerSlam, mais oui. Alors l'intrigue, la rivalité, encore une fois, les précipités. Comme tu dis, moi je croyais pas non plus à ce passage où ils se battent dans les vestiaires, ça ressemble pas à Bray Wyatt, comme tu dis, qui est quand même un mec mystique normalement, qui fait des trucs un peu plus chelous. Alors c'était l'occasion avec Finn Balor, le démon, de faire quelque chose d'un peu qui joue sur le mysticisme, mais rien du tout, hein, une vieille brawl dans les vestiaires. Et puis le truc du saut sur la tête, bon, franchement, ça fait cheap. Finn Balor qui se roule par terre de douleur, bon, merci bien.
Oui, puis il n'était pas très doué. Hein. Il s'est passé.
Non, pas non plus très acteur studio, hein, Finn Balor.
Et puis il arrive.
Et puis hyper clean en 10 minutes. Bon, voilà, hein, on en parlait la dernière fois là, du booking de Balor, à qui on avait mis une fusée au cul au début et qui maintenant est un peu dans le haut de la mid-card, on va dire.
Ouais.
Il est plus aussi balèze que ça. Maintenant, il se fait battre par Bray Wyatt clean.
Après, ils vont écrire peut-être quelque chose dans le temps. Là, je sens bien qu'avec le démon, il y a des chances qu'il gagne à SummerSlam, et puis ça peut faire une feud intéressante. Mmh. Mais là, les débuts, encore une fois, sont précipités. On sait pas trop pourquoi. Bray Wyatt a déjà un univers assez riche. Ils auraient pu aller nous puiser un truc dans ce qu'ils nous ont déjà montré, mais là, ce saut de peinture, oui, ça correspondait à rien de ce qu'on avait vu, quoi.
Est-ce qu'il nous fait pas chier un petit peu, Bray Wyatt ?
Ah là là, bref, moi je suis mitigé, parce que je trouve que c'est le genre de personnage que c'est bien d'avoir un truc un peu bizarre, un peu. Mais c'est vrai qu'ils s'en servent trop pour justifier l'injustifiable, quoi. Enfin, pour justifier des trucs qui sortent du chapeau complètement.
Déjà, son père était chiant dans le ring. Bah lui, il est un peu dans la même veine, hein, au final. Hein. C'était l'inspecteur des impôts, son père, ou Wall Street. Il fait
Oui.
partie de la NWO. Et son frère, Bo Dallas,
Ah ben on va en parler.
on va en parler un peu plus tard, mais ce qui est marrant, c'est que je l'ai entendu chez.
Chez Ruquier.
Non, pas chez Ruquier, chez oh, bon sang de bois, Chris Jericho dans son
Ah.
podcast. Et en fait, Bo Dallas, c'est un conspirationniste, c'est-à-dire qu'il croit aux toutes les théories de conspiration. Il croit qu'il y a des hommes lézards qui vivent sous la terre
Ah, des
et qui
reptiliens.
contrôlent des reptiliens, voilà, qui vivent. La terre est creuse, des reptiliens sont là, ils contrôlent le monde. George Bush est un reptilien.
Ah oui.
Il a passé une heure et demie peut-être à expliquer avec Chris Jericho toutes les conspirations.
Ouais, donc en
Il
fait,
est bien allumé, hein.
d'accord, bah d'ici 2 semaines, il va peut-être rejoindre la gimmick de son frère, ça lui irait mieux alors.
Exactement, je pense qu'il est peut-être plus allumé que Bray Wyatt. Il fait un peu peur, le garçon, hein, mais bon.
D'accord. C'est peut-être pour ça qu'ils le pushent pas trop, alors ils ont peut-être pas envie de trop lui donner le micro.
Ouais, je pense que ça explique beaucoup de choses. Je pense qu'il doit faire peur à quelques personnes dans les vestiaires.
D'accord, intéressante info.
On apprend des choses. Allez, avançons. Ilias. Vous vous souvenez? Ilias Sanson, le drifter? Ben maintenant, c'est Ilias tout court.
Alors oui, c'était très
Ben oui.
bizarre. Mais c'était Elias tout court, sauf pour Michael Cole qui n'a pas arrêté de dire Elias Sanson. Donc il n'a pas dû
Ah,
être au courant.
c'est ça, il a pas reçu le brief. Il a
Visiblement.
pas reçu la note. Petite chanson, hein, de Ilias qui critique la ville. Hein, en gros, la chanson, c'est cette ville, c'est de la merde, j'ai hâte de me casser. Mais il est interrompu par R-Truth, le rappeur, qui lance son rap, évidemment, qui arrive au ring et qui se fait cueillir comme une merde. Il se fait démonter en 3 secondes. Et Ilias repart. Grand vainqueur de ce petit affrontement express. Alors, R-Truth, la nouvelle serpillière du ring.
Oh, bah ça fait un petit moment qu'ils gagnent pas trop. Ma foi, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec Elias, mais c'est souvent ce qui arrive, hein, les mecs qui arrivent pour faire un petit peu de buzz autour de leur arrivée, ils commencent par feuder contre des mecs assez établis, là, Dean Ambrose et Balor, et puis après, bon, ils redescendent un petit peu, c'est logique qu'ils prennent le dessus. Bon, la feud avec Artruf, ma foi, ça va être de la low card mid card, quoi. Mais comme l'autre est un chanteur, ça joue aussi. Par contre, ouais, je suis un peu déçu de cet abandon de nom de famille. Après, le truc avec la WWE, c'est qu'on s'y fait toujours, tu vois. Il y avait Biggie Langston est devenu Big E. Cesaro, il s'appelait Antonio Cesaro, et finalement, ça nous paraît bizarre avec le recul. Pareil pour Alexandre Rousseff. Mais là, juste Elias, bon. Ouais, bon, on verra si on s'y fait ou pas.
Ouais, on verra bien. Ouais, c'est sûr. Il a perdu pas mal, hein, de sobriquets, hein, parce que c'était Elias Sanson le drifter, après
Ouais.
Elias Sanson, et maintenant Elias tout court. Oui, bah, on en verra plus sur lui la semaine prochaine.
Oui.
C'était suffisamment court pour pas nous ennuyer. Je suis sûr, le fait qu'on en ait discuté, ça a dû durer plus longtemps que la
Oui, je
séquence.
crois aussi.
Une cage anti-requin, toi qui connais bien les animaux.
Oui.
Cage anti-requin dans le ring. Pourquoi? Parce qu'à SummerSlam, le Big Show affronte Big Cass et pour éviter les interventions du pénible Enzo, on met le petit Enzo dans une cage au requin qu'on accroche au-dessus du ring. Alors Big Cass débarque et il est gravement hué, hein. Il a une hit phénoménale, les gens le détestent. Alors il essaye de commencer son speech, mais il est obligé de s'arrêter à chaque fois parce que les gens huent trop fort. Et après, bah, il finit quand même par faire son speech, mais alors bon, personne n'en a rien à foutre, et puis il raconte rien d'intéressant. Là-dessus, Enzo débarque. Il dit à Bicasse, t'as du mal à parler, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as été mis KO 2 fois d'affilée les semaines dernières. Et donc, il y a le Big Show qui arrive. Alors un peu avant, Big Show il a quand même expliqué que Enzo il traînait avec le Big Show parce qu'il avait besoin du Big Show pour se protéger et que le Big Show traînait avec Enzo parce que il essayait encore d'avoir de la valeur dans le roster. Il y avait que traîner avec Enzo qui pouvait le faire un peu être pertinent dans le roster le Big Show. Alors ils se font face sur le ring, Big Cass et le Big Show autour de la cage, ils tournent autour de la cage un petit peu. Enzo essaye d'interférer, mais il se fait sonner par Big Cass. Et alors là, il y a Karl Anderson qui débarque par derrière et il frappe le Big Show au niveau du genou, là, un petit spear dans le genou. Il y a Gallows qui arrive aussi. Et là, on va prendre le Big Show, on l'attache à la grille, on lui met un grand coup de porte de la grille sur le bras. Le Big Show a visiblement très mal. Big Cass continue à lui taper dessus à coups de pied sur sa pauvre mimine. On apprendra un peu plus tard que le Big Show a la main a visiblement cassée. Enzo lui dit, écoute, il faut vraiment arrêter le match, faut pas aller à SummerSlam, t'es blessé. Le Big Show il dit, écoute, je me suis déjà fait blesser pire que ça, affronter des mecs plus gros que Big Cass. Donc on va y aller à SummerSlam, je vais lui péter la gueule. Enzo lui dit, écoute, il faut que tu penses à la grande picture, hein, big picture, au grand dessin. Et le Big Show lui explique, écoute, c'est moi le grand dessin, c'est moi le big picture, et t'as intérêt à pas l'oublier. Un petit peu de tension qui se crée entre Enzo et le Big Show. On a pas mal de petites rumeurs qui nous parleraient d'un turn de Enzo finalement. Faut ressouder la team soft, mais du côté sombre de la force.
C'est pas vrai.
Écoute, c'est ce que j'entends dire de ci, de là. En tout cas, toute cette séquence, toi, est-ce que ça t'a convaincu ou est-ce qu'on continue à en avoir un petit peu rien à battre de tout ça?
Oh oui, on continue assez à en avoir un peu rien à battre. Après, c'est vrai que ben là, c'est le moment où je me dis que je suis un fan de catch depuis trop longtemps et peut-être je suranalyse parce que tu vois, Big Cass, moi je le trouve pas très bon. Au micro, j'ai trouvé qu'il a mis vraiment du temps à oser sortir de son texte et à essayer de contrer un peu les huées. Mais en même temps, du fait qu'il paraît si mauvais au micro, ça le rend encore plus détestable. Donc au final, c'est un heel total, quoi. On dit assez souvent parmi nos forums et nos discussions qu'il y a de plus en plus de mecs qui sont heel mais qui sont soutenus par une partie du public, hein, Samoa Joe. Bray Wyatt, bah là au final les mecs Gallows et Anderson c'est pareil, hein, là on avait vraiment des vrais très méchants quoi. Personne les soutient, personne les aime. Mais après bah ouais de toute façon moi le Big Show cette année je sais pas il me fout le cafard, je trouve que ça sent qu'il est sur la fin et qu'il a plus trop l'envie, en même temps on lui donne des trucs de merde. Tout le monde dit qu'il est devenu très fit, mais moi je le trouve je sais pas presque maigre, un peu maladif. Bref, tout ça me met mal à l'aise et me plaît pas trop. Et pour cette histoire de main brisée, du coup, c'est nul parce que si le Big Show gagne contre Big Cass alors qu'il a la main pétée, le petit genou il passe quand même pour un branque, pour un naze. Et si Big Cass gagne, il aura gagné, mais bon, contre un Big Show qui a la main à moitié pétée. Donc c'est pas non plus la victoire qu'il faut pour valider le début de sa carrière en solo. Donc je sais pas. Moi j'avais pas entendu parler des rumeurs. Je sais, j'ai lu et j'ai vu qu'a priori Enzo est détesté par une partie du vestiaire et tout ça, mais j'ai pas fouillé plus en profondeur. Ça serait drôle, ça serait un petit coup comme quand on avait eu les sœurs Bella Twins là qui s'étaient détestées puis remises amies. Bon, peut-être oublier ce passage.
Ouais, ce serait pas plus mal de. Parce que de toute façon, en solo, l'un comme l'autre, ça sert à rien. Donc autant qu'ils les remettent ensemble, mais du côté sombre. Je sais pas s'ils vont pas nous faire le coup du Big Show qui vient avec une main dans le plâtre, comme ils ont déjà fait de temps en temps.
Peut-être.
Du coup, là, le plâtre devient une énorme masse, une arme.
Oui, mais bon.
Bon, il y a déjà la cage au requin, alors si en plus il y a un plâtre. Ça fait beaucoup, plus Gallows et Anderson qui viennent là, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, grosse hit, effectivement, de Big Cass. Donc mine de rien, hein, des ratings qui fonctionnent avec Big Cass, son heel turn qui fonctionne, puisque tout le monde le déteste vraiment et
Ah oui.
qu'il a des grosses réactions du public. Pour l'instant, il a tout juste, hein, le gros big cast.
Ouais, bah il reste à voir ce qu'il dit sur le ring.
Inquiétant pour la suite.
Ouais.
Ouais, bah oui, bah alors après, on va voir ce que ça donne le match. Ça va être le grand test contre le Big Show.
Ouais, pas terrible comme test.
C'est ça. Mais on sait pas, hein, on a déjà vu des miracles arriver.
Oui.
Mais bon, par contre, encore une fois, ce qu'il a raconté, rien à foutre, hein. Donc c'était encore un truc qu'on sent qu'ils avaient travaillé. Mais t'as pas envie de l'écouter parler, donc t'écoutes pas ce qu'il dit, et au final, du coup, ça fonctionne qu'à moitié, hein, parce qu'il y a quand même une promo qui était assez longue, hein, au niveau du discours, mais
Ben oui, c'est-à-dire que
sans grand intérêt, sans
ouais,
grand impact.
pour moi c'est nul parce que tu écris l'histoire d'un mec qui trahit son meilleur ami parce qu'il a de plus grandes ambitions personnelles. Et depuis, bah et, oui, il reste focalisé sur Enzo, sur le Big Show. À aucun moment il nous a dit ces mecs-là m'emmerdent, moi j'ai envie d'être dans le main event ou un truc comme ça. Non, enfin, il a aucune ambition là, c'est nul.
Ouais. Alors, il avait nargué un petit peu Brock Lesnar, mais ça s'est
Ouais,
vite
mais
calmé.
bof, j'ai entendu.
Voilà, bah, le grand test, hein, ce sera SummerSlam pour Big Cast. Le Big Test. Allez, on a une surprise de taille, un Cruiserweight Championship.
Eh oui.
Ensuite, le roi Neville contre Tozawa, contre Akira Tozawa. Donc Tozawa Challenger, hein, Neville le champion. Donc un match plutôt bien troussé, hein, ça se tape un petit peu dans tous les sens. Il y a un double dive qui est exécuté par Tozawa, hein, il fait un dive et puis après il refait un dive.
Très beau.
La fameuse superplex, ouais, très beau. Fameuse superplex de Neville depuis le haut du coin du ring. Il y a une tentative de Ring of Saturn qui est contrée par Tozawa, il réussit à se contorsionner de manière à mettre les épaules de Neville au sol, qui est obligé de casser sa prise pour éviter de tomber. Et en fin de match, Tozawa réussit à esquiver le Red Arrow. Et il en profite pour placer sa Swanton, sa magistrale Swanton. Eh bien, pour la victoire, hein, le compte de 3, 1, 2, 3, le roi Neville est tombé.
Eh oui.
8 mois de règne,
Eh
hein,
bah
pour
oui,
Neville.
c'est le bon
Il a
mot.
survécu. C'est ça, il a survécu à WrestleMania, Austin Harris, tous ses adversaires, et le voilà victime de Akira Tozawa, de la Titus Worldwide, hein, puisque Titus O'Neil et Apollo fucking Crews débarquent sur le ring pour fêter la victoire du fils adoptif de Titus O'Neil, qui le place sur ses épaules, et c'est la fête. Et c'est la fête. Alors on sait qu'après il y aura à 205 Live, il y aura une célébration de cette victoire. Et d'après mes informations, à l'heure où on met sous presse, il y aura un match revanche donc à SummerSlam. Neville Tozawa. Cette victoire surprise du Japonais. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah moi j'ai un peu envie de dire mauvaise surprise parce que c'est ouais c'est le règne de Neville, c'est le premier vrai beau règne de cette ceinture Cruiserweight, c'était un excellent champion, on a eu des putains de matchs, enfin moi la feud contre Austin Harris, vraiment je vais la mettre très haut je pense dans le top des feuds de l'année et je la regrette. Et la construction du personnage de Tozawa en mec un peu très bon catcheur mais pas un peu trop tendre qui se fait prendre sous son aile par Titus O'Neil, ça a de l'intérêt mais là ça ouais ça arrive trop vite, c'est en milieu de Raw, là c'est un règne qui méritait de mieux finir moi je trouve. Je suis un peu déçu. Je sais pas toi mais
Ouais, carrément, carrément. Ouais.
on
Je
est
vois pas
d'accord.
pourquoi Tozawa est susceptible d'être le mec qui fait tomber Neville. D'accord, il a beaucoup de talent, Tozawa. Mais alors pourquoi pas Gallagher, pourquoi pas n'importe qui dans le roster. Alors il y a la Titus Worldwide. Alors je sais pas. Est-ce que ça fonctionne tant que ça la Titus Worldwide qu'il faut
Ouais.
leur filer carrément la ceinture dans les pattes et puis tout ça pour voilà pour finir pour un match à Monday Night Raw. Non, c'est super décevant, hein, moi je trouve. Hein.
Non,
Qu'est-ce
c'est.
qu'il va faire après le pauvre Neville?
Bah, j'espère bien qu'il va la regagner. Non, mais on sait pas, c'est bizarre. En soi, Tozawa, pourquoi
Ouais.
pas, mais le contexte est pas terrible. Et puis c'est toujours pas très clair. Enfin, Titus O'Neil, pour moi, il apparaît quand même plus comme un heel qui manage des faces, donc.
Ouais, c'est ça aussi. Puis c'est la première fois qu'on a un manager, je crois, qui est plus grand que ses les catcheurs qu'il manage.
Ah oui. Ah bah oui, bah c'est possible. Oui, puis du coup, Apollo Crews, il devient totalement transparent, c'est bizarre.
Ouais. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils vont monter la Titus Worldwide avec, je sais pas, pourquoi pas, Apollo Crews qui va chercher un peu le titre intercontinental ou quelque chose comme ça. Mais bon, bah, c'est le résultat hein, d'une année de Division Cruiser hein, qui aura su juste élever Neville au rang de roi des Cruisers. Mais alors, derrière, bah, on a Tozawa, il est rigolo, mais alors, ça va pas aller bien loin. Hein. Enfin, je
Ben,
pense.
on verra, ouais.
En tout cas, tu t'es pas jeté surtout au Five Live.
Non,
On
du
est
tout.
d'accord.
Non.
Voilà. Donc voilà, je pense que l'effet est raté et qu'on aurait préféré à la limite voir un bon moment à SummerSlam hein, pour que la foule soit contente.
Oui, à
Mais
SummerSlam,
là,
ça
au bout
serait
de ça,
passé.
on aura peut-être une victoire de Neville à SummerSlam, histoire de fâcher le public.
Ah ben, moi, je serais content.
Ouais. Ben, moi aussi, hein, parce que je vois pas l'intérêt de la ceinture Cruiserweight si elle n'est pas autour des hanches de Neville. Tous les autres, ils sont gentils, mais c'est des gens des indépendants et voilà, il n'y a rien de vraiment de construit sur eux, donc c'est un peu, comment dire, un peu vain, tout ça.
Eh ben
Voilà,
écoute,
les Cruisers.
passons à la suite, oui.
Passons. Passons, alors il y a du lourd, du très lourd. Emma dans les vestiaires qui se plaint auprès de Mickie James que ben, s'est fait gruger par la Diva Revolution. Elle a vu tout le monde lui passer devant donc Mickie James lui dit bah écoute arrête de te plaindre hein. Au lieu de pleurnicher sur Twitter là sur les réseaux sociaux tu veux pas plutôt affronter une ancienne championne qui a gagné 6 fois je crois le titre des Divas si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Ah, c'est ce qu'elle dit, oui.
Et donc voilà, et on aura un match donc Emma contre Mickie James un peu plus tard. On a une pub pour un film avec Bruce Lee. Alors j'ai pas compris parce que Bruce Lee, ça fait quand même longtemps qu'il est mort. Mais bon, je sais pas, j'irai investiguer ça, je vous en dirai plus. Mickie James contre Emma, un match où il s'est pas passé grand-chose et bizarrement la victoire de Mickie James avec son coup de pied retourné à la surprise générale, y compris de Michael Cole hein, qui avait pas l'air d'avoir compris que c'était la fin du match. Alors Emma toujours au purgatoire.
Oui, tiens d'ailleurs, oui, ça me fait penser, je reviens un peu en arrière, que Michael Cole a gentiment spoilé la fin du match des Cruisers, je sais pas si t'as fait gaffe, sur un, je sais plus ce qui s'est passé, un tombé qui est passé à 1-2, il a dit un truc du genre, ah, Tozawa toujours, toujours champion, et puis après il a dit,
Ok.
non, c'est Neville qui est, le match continue, Neville est toujours champion, enfin il s'est gouré, bah Emma... Ouais, c'est con, c'est chiant, c'est nul. Déjà, c'était un mauvais match, très mal exécuté, j'ai trouvé. Moi, j'ai vraiment aucun plaisir à revoir Mickie James depuis bah, ça doit bientôt faire 6 mois qu'elle est revenue, même plus. Je trouve qu'elle a rien fait de bien. Hein. À aucun moment, j'étais content. Et Emma, alors, ça va peut-être faire partie d'une construction plus longue. Peut-être qu'elle va pas arrêter de perdre et puis qu'à un moment, elle va vraiment se rebeller, je ne sais pas, mais ouais, la hashtag on vaut mieux que ça, quoi, c'est sûr.
Ouais, une belle carrière à la Alicia Fox pour elle, hein, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'elle s'est mise clairement à dos les officiels, donc pour l'instant, voilà, on va la faire jobber.
Ouais,
Je
c'est
pense pas
tout.
qu'il y aura jamais de gros projets sur elle, malheureusement. Hein. Ça va être un des ratés de la division féminine, hein, comme c'est barré.
Oh, espérons. Allez, on peut lui voir un. Tu te souviens, je sais plus si tu te souviens, c'était MVP qui avait une période comme ça où il arrêtait pas de perdre, il était en colère. Et après, ça
Le
avait.
losing streak.
Voilà, et après, ça avait fini par un face turn et puis un petit push, donc pourquoi pas. Souhaitons-lui la même.
Allez, espérons. Allez, on croise les doigts pour la belle Emma. Baylor, interviewé par Charlie Caruso. On a déjà parlé, mais j'ai pas mentionné que Charlie Caruso était très en beauté pour cette semaine.
Oui.
Le Miz affronte donc Jason Jordan. Donc un match très rapide où Jason Jordan a très vite le dessus, hein, ça y va, la distribution de souplesse. Et bah finalement, intervention du Miz Tourage, hein, quand Jason Jordan est à 2 doigts de la victoire. Disqualification du Miz. On passe Jason Jordan à tabac. Mais là, heureusement, les Hardy Boys débarquent. Alors il faut mentionner que pendant tout le match Jason Jordan The Miz, le public était mort, on aurait cru à un match des Cruisers. Aucune réaction hein, pour Jason Jordan. Et par contre, les Hardy débarquent et là, c'est la fête. Hein. Les gens sont contents.
Ah bah oui.
Et ils vont être encore plus contents puisqu'on va leur booker à la va-vite un match 3 contre 3, les Hardy Boys et Jason Jordan contre le Miz et son Mistourage, donc Bo Dallas, dont je parlais un peu plus tôt dans l'émission, et Curtis Axel. Donc un match assez long, hein, ça a duré à peu près 12 ou 13 minutes. Le finish, on va aller tout de suite au finish, hein, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans le match. Twist of Fate sur Bo Dallas, enchaîné avec une Swanton de Jeff Hardy. D'ailleurs, Bo Dallas est sûrement mort hein, sur le coup parce qu'il était mal placé et il s'est fait complètement écrabouiller là par Jeff Hardy. Voilà donc victoire des gentils. Les gens n'ont rien à foutre de Jason Jordan, hein, ça c'est comme j'avais dit, hein, c'est mort-né pour lui. Et sinon les Hardy toujours très populaires, mais alors Jeff Hardy grimace tout le temps, je sais pas si c'est de douleur ou si c'est des gimmicks comme ça, mais il a vraiment l'air de souffrir quand il est dans le ring. Qu'est-ce que t'as pensé toi de toute cette séquence?
Oui, eh bien écoute, en termes de précipitation, là on a clairement un truc qui est précipité, hein, puisque les Hardy, on sait qu'ils auraient dû feuder contre les Revival qui sont blessés. Mais moi je trouve ça bien récupérer le truc, parce que comme tu dis, Jason Jordan tout seul, on entend les mouches voler, mais là du coup il l'inclut avec les Hardy. Bon, grosse ficelle hein, de le mettre face à des mecs ultra populaires, mais ça a bien marché. Et quand il a aidé un peu les Hardy à faire le ménage autour du ring avec c'est pas vraiment des spears, mais ses souplesses et puis ses coups de bélier, ça, le public a un peu plus réagi. Donc, ma foi, ça passait mieux là, c'était plus intelligemment fait. Après, les Hardy, c'est vrai qu'ils ont toujours un catch un peu. Enfin, les matchs ont un drôle de rythme avec eux, c'est pas très fluide, c'est un peu haché. Et puis là maintenant, je trouve qu'il déroule un peu trop, toujours le même finish. Bon, c'est toujours Twist of Fate, Swanton Bomb. Bon, écoute, ils sont là en 2017 à la WWE, on s'y attendait pas. Pour le moment, ils n'ont pas commencé une gimmick un peu surnaturelle, mais ils sont dans une place assez correcte. Ils sont en mid-card, populaire, éloignés pour le moment de la title picture, mais ils peuvent facilement y revenir. Non, je trouve que leur utilisation est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, faut sauver le soldat Jordan. On vous rappelle que c'est censé être le fils caché de Kurt Angle. Et donc du coup, ben ça fonctionne pas. Et ouais, les Hardy, ben ils ont leur place solide. Donc là, pour eux, c'est un peu compliqué parce qu'ils étaient dans leur rivalité avec le Revival. Mais le Revival, Scott Dawson est blessé, donc ils pourront pas avoir leur match qui était prévu à SummerSlam. Peut-être qu'on va avoir à nouveau un match 3 contre 3 à SummerSlam, mais c'est pas sûr. Il
La
n'y a
carte est
pas de
lourde.
défense du titre. Ouais, il n'y a pas de défense du titre intercontinental en tout cas. Les Hardy, c'est solide. Est-ce qu'on pourra avoir encore un run solo de Jeff Hardy? Ça, c'est la grande question, parce qu'il avait quand même le potentiel. C'était une énorme star, c'est une des stars les plus populaires. Est-ce qu'il pourrait encore sortir un run solo? Jeff Hardy.
Moi, j'y crois pas vraiment, honnêtement. Physiquement, je pense pas. Je trouve qu'ils sont tous les deux assez vieux et rouillés, donc c'est très bien qu'ils soient en tag team, comme ça ils font chacun des matchs un peu plus courts. Je l'imagine pas du tout. Enfin, oui, pourquoi pas une feud solo ou autre, mais là avec les jeunes qu'il y a dans les main events, tous les Rollins, les Balor, les Reigns, les Samoa Joe, enfin tous ces gens sont d'un autre niveau là maintenant, je pense pas. Enfin, moi j'y crois pas. Peut-être que.
Ouais, ou alors sur un match pas trop long où il peut briller, mais où il perd à la fin, quoi, parce
Ouais, ou
il a plus le truc, quoi.
un run mid-card, la ceinture. Oui, une ceinture intercontinentale. Il peut très bien feuder contre ces gens-là, contre le Miz, contre, je sais pas, Big Cass. Enfin, non, mais.
Ouais, mais contre, je sais pas, contre Braun Strowman ou même contre Roman Reigns,
Ouais, j'ai du mal à
est-ce que tu
imaginer.
penses qu'un jour, ouais. Ce serait chaud, hein. Mais ça fait quand même rêver un bon Jeff Hardy Roman Reigns.
Ouais, bah après, tu peux toujours maquiller avec beaucoup d'extraits et donc des quelques spots, mais je sais pas, je le sens pas trop.
Soit. En tout cas, on n'en est pas là.
Non.
Pour l'instant, tout ça s'est mélangé. On essaye de sauver Jason Jordan. Est-ce qu'ils vont y arriver? Bonne question. J'aime pas quand j'ai raison comme ça, hein, mais clairement, c'était vraiment une idée de merde, hein, ce Jason Jordan, fils de Kurt Angle.
Oui.
Et ça a eu le pire résultat parce que les gens, il n'y a même pas de la hit, il n'y a rien du tout, les gens s'en foutent, quoi.
Oui,
Pas de
bah
réaction.
quand tu penses à comment l'état dans les... Enfin, je dis pas qu'on était surexcité, mais quand il a commencé à avoir cette gimmick du Kurt Angle affolé qui reçoit des textos et tout, on se dit putain, est-ce que c'est le début d'un gros truc? Est-ce que c'est Stéphanie qui revient? Est-ce que ça va tout bouleverser? Puis finalement, c'est oui, c'est en mode ah ouais, c'est ça. Bon, et ensuite?
Ouais, la grosse déception de l'année, ça, hein, je crois.
Oui.
Kurt Angle. Kurt Angle, il est là dans le main event. C'est
Ah.
lui qui est au milieu du ring. Et il reçoit, évidemment, le champion de l'univers, Brock Lesnar, qui débarque avec son avocat, Paul Heyman. Et Paul Heyman qui va nous sortir une promo, comme il en a le secret, une promo phénoménale, où il nous explique que, y a une conspiration contre Brock Lesnar. La WWE veut qu'il perde le titre, donc on a booké ce match Fatal Four Way. Ainsi, il peut perdre le titre sans avoir le tombé. Paul Heyman nous explique que lui, il est un fan de catch et que de voir un match où le champion perd la ceinture sans s'être pris le tombé, ben ça craint, c'est de la merde. Et il nous fait une petite référence à l'UFC en disant que si à SummerSlam, Brock Lesnar perd le titre, eh bien il faudra vraiment mettre la bête en cage, comme la cage à 8 côtés de l'UFC. Il me fait des petits clins d'œil, hein, petits clins d'œil sonores, wink wink. Là-dessus, Samoa Joe débarque. Il explique qu'il n'y a pas de conspiration, que c'est pas un froussard et que à SummerSlam, il prendra la ceinture d'Eman Brock Lesnar, hein, après l'avoir piégé dans le coquille à clutch, hein. Après l'avoir fait tourner de l'œil, il n'aura pas besoin que quelqu'un d'autre de faire le tomber sur quelqu'un d'autre, il le fera sur Brock Lesnar. Ensuite, c'est Braun Strowman qui débarque et qui explique à Brock Lesnar que c'est lui toujours le last man standing, hein, en rapport au last man standing qu'il a gagné la semaine dernière. Samoa Joe lui dit, écoute, t'as gagné le last man standing, ben, c'est surtout grâce à moi, hein, parce que c'est moi qui est intervenu pour faire comment dire, pour assommer Roman Reigns, hein, il l'a pris dans le coquina clutch et puis il lui a fait aussi tourner de l'œil, ce qui a permis la victoire de Strowman. Évidemment, là c'est Roman Reigns qui débarque, mais alors lui il a rien à dire, il vient, il spire Samoa Joe direct, mais il se mange un power slam par Braun Strowman. Et là, on a le face-à-face, Braun Strowman contre Brock Lesnar. Il y a la sécurité qui était là depuis le début. Hein. Kurt Angle annonce qu'il avait prévu de la sécurité pour tout ça, parce que ça, c'est quand même beaucoup de gens costauds dans le ring et ça allait sûrement dégénérer. Et effectivement, ça dégénère. La sécurité se fait balayer, hein, d'un côté par Brock, de l'autre côté par Braun. Il y a tout le roster de la WWE de Monday Nitro qui débarque pour les continuer à les séparer. Roman Reigns se relève, Samoa Joe aussi, ils sont là au bord du ring et ça se termine avec un dû à toi, à moi. Hein, on réussit à passer la sécurité, on saute sur un, on passe la sécurité, on saute sur l'autre. Voilà les images un peu chaotiques de la fin de ce Go Home Show avant SummerSlam, Monday Nitro du 14 août. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, mon bon Rafa?
Eh bien, ça aurait été très bien, je trouve, si on n'avait pas déjà eu ce coup de la baston avec tout le roster et la sécurité il y a un mois quand il y avait juste Samoa Joe et Brock Lesnar. Parce que c'était il n'y a pas longtemps du tout, quand même, on est d'accord, hein.
Ouais, c'est la redite.
Ouais, c'est un peu dommage. Sinon, bah, promo énorme de Paul Heyman, moi, j'ai trouvé monstrueux. La suite, non, mais ouais, il a vraiment énormément de gueule ce carré à 4 là. C'est une très très bonne idée. C'est SummerSlam, c'est un des très grands événements de l'année. Il faut envoyer du pâté, et là, c'est sûr que ça a bien plus de gueule que si on avait eu juste Brock Lesnar contre l'un des trois, et puis les deux autres dans un autre match sans trop d'enjeux, ou pour le first contender. Non, c'est une très belle affiche, ils se mettent bien sur la gueule. Alors moi j'ai un peu de mal quand même avec le côté ouais, on se bat comme des chiffonniers, parce que ils devraient pas être dans la haine tant que ça de l'un de l'autre, ils sont plus dans le oui, dans le vouloir être le meilleur quand il y a la cloche pour gagner la ceinture. Mais bon, c'est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de talent en présence, et on sent que là on est dans le très lourd. Dans
Ouais.
tous les sens du terme.
C'est ça, hein. Il y a vraiment, encore une fois, il y a la différence entre le main roster et puis les gens du main event, hein.
Ouais, là.
On est quand même un cran au-dessus au niveau du charisme, au niveau de ce que ça dégage. Et encore une fois, effectivement, Paul Heyman qui sort une promo exceptionnelle. Et effectivement, du coup, la brawl qui s'en est suivie était moins convaincante parce qu'aussi redite par rapport à ce qu'il y avait eu entre Joe et Lesnar. On sent qu'ils sont un petit peu dans l'optique de calquer un peu ce qui se passe à l'UFC.
Possible.
Tu vois, comment dire, c'est presse conférence là qui dégénère. Mais là, maquillé avec les attraits de la WWE, la parade de la WWE. Ben voilà, ça a de la gueule quand même. On est hypé quand même pour ce SummerSlam, pour ce main event. On veut savoir qui est le plus balèze des quatre. Ma foi, c'est relativement efficace, mais ça aurait peut-être pu être un petit peu mieux exécuté au niveau de la brawl.
Oui.
La brawl finale. Voilà, on a fait le tour de l'émission.
Et
T'as quelque
oui.
chose à ajouter peut-être?
Non, bah on va passer au
Non?
vote, je pense.
Voilà, le mot de la fin, top flop, une note. C'est parti, nous t'écoutons.
Eh bien, le flop, pour moi, c'est le changement de titre Cruiserweight comme ça, à la va-vite, en milieu d'Euro. Pour achever piteusement, j'utilise le terme, un règne brillant de Neville qui s'était mis complètement comme son petit film d'animation à l'entrée, quoi, sur orbite. Il était le seul au sommet, et là il perd comme dans une cour d'école, donc très déçu. Le top, Paul Heyman, hein, la promo de Paul Heyman, et c'est toujours très très juste en fait. Il dit vraiment ce qu'un smart pourrait dire. Il fait des allusions au passé, au présent, au futur, à l'UFC, à tout. Et puis, voilà, quoi, il le dit vachement bien. Il a une voix, il a une intonation. Enfin, c'est un professionnel. Il n'y a pas beaucoup de mecs que tu peux écouter 20 minutes alors que tu es là à regarder un ring de catch et à vouloir voir des mecs se battre. Et tu l'écoutes et t'as pas envie qu'il s'arrête. Donc, très très bon. Et du coup, je vais mettre un 3 sur 5. Je vais dire un peu au-dessus de la moyenne parce qu'il y a pas mal d'affiches pour SummerSlam qui me sont alléchantes, et même s'ils ont, à mon avis, un peu joué la facilité et la précipitation sur le booking, ils préparent une carte sympa, donc un peu plus de la moyenne.
Ok.
À toi.
À moi. Écoute, moi je vais être plus méchant que toi. Le flop, je vais le donner au saut de sang sur Finn Bálor et sa défaite contre Bray Wyatt. C'était juste nul. Nul, nul, nul. Faire perdre Finn Bálor et puis ce truc avec le sang, c'était ridicule. C'est précipité aussi. Hein, pour SummerSlam, cette rivalité.
Oui.
Pour le top, je suis obligé de le mettre à Paul Heyman aussi, hein, parce que moi j'ai un peu que des flops dans cette émission de cette semaine.
Ah oui.
Pour moi, il n'y a rien qui a fonctionné. Hein. L'acting de Ambrose et Seth Rollins, c'était trop difficile.
Ouais, c'est vrai.
Nia Jax, elle a failli blesser Sasha Banks.
Ouais, avec le recul, j'ai peut-être été trop gentil, effectivement.
C'est ça. Défaite de Neville.
Ouais, Jason
Alors le
Jordan,
mieux, Jason Jordan, ça fonctionne pas. Bicass, bon, il y a de la hit, mais c'est quand même pas. On est loin
ouais.
d'avoir un truc très enthousiasmant. Hormis Paul Heyman qui a claqué une promo assez phénoménale, le reste c'est vraiment tristouné. Je suis sorti du Go Home Show moins hypé que quand j'y suis rentré. Alors bon, peut-être que C'est dû aussi au G1 Climax, hein, on va revenir dessus, de la New Japan qui était vraiment exceptionnelle et
Ah
que je
là
vous
là.
invite tous à aller regarder. 10 balles, hein, vous avez l'intégrale du tournoi. Mais là, franchement, tout ça s'est fait à la va-vite. C'est pas tant que c'est bâclé, y a beaucoup de choses qui sont loupées. Il paye un peu des choix il y a quelques mois qui se répercutent là. Et j'espère qu'on va quand même avoir un bon show. Bon, WrestleMania, ça se présentait mal déjà. On avait eu un show qui était super cool.
Ouais.
Donc je pense quand même, je fais confiance à Vince. Il va nous sortir quelque chose de sympa. Et puis il y aura le check-up après. Puis on va partir sur toute autre chose.
Ah, il y a un check-up
Et tout
après?
sera. Ouais, normalement, il y a un check-up après.
D'accord.
Bah oui, parce que là, il n'y a rien qui va. Hein.
Ah.
On parle pas encore de SmackDown, mais c'est encore pire là-bas. Donc
Bah écoute,
voilà,
on va
hein,
en parler en
on va
premier.
garder espoir. Voilà, c'est ça. Pour donner notre petit avis là-dessus, hein, la vidéo des pronos, vous l'aurez dans pas longtemps. Et sur ma note, je vais mettre un 2, un bon 2. C'est-à-dire que c'est en dessous de la moyenne.
Simplement deux.
Simplement 2. Voilà. Alors, c'en est fini de cette émission. Viens, on va faire un peu de la pub pour nos amis de Feud of the Year, le podcast interactif des cahiers du catch, puisqu'il y a SummerSlam qui arrive,
Oui.
un pay-per-view, donc il y a des pronostics à faire, vous pouvez aller écouter leur émission. C'est sur Dailymotion que vous trouvez Feud of the Year. Il faudra que je pense à mettre un petit lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller écouter tout ça. Tu participes toi à Feud of the Year, Raph?
Et oui, je participe, mais malheureusement, eh bien, j'en ai loupé un cette année, je sais plus lequel, donc forcément, mon classement général s'en trouve affaibli.
Aïe aïe aïe, ça c'est frustrant quand
Mais
on loupe
bon, je suis pas très bon
un
en général.
pay-per-view. Ok, bah j'espère que tu vas te sentir les doigts de tu sais où
Ouais.
pour la vidéo des pronos qui va débarquer. Voilà, vous avez aussi, si vous aimez les podcasts, une très bonne émission sur Vince Russo pour ceux qui aiment l'histoire du catch, dans la fabuleuse histoire du catch américain. Trouvez ça sur la chaîne C'est ça le catch sur YouTube. Voilà, c'était un petit peu de promo pour ce qui se passe autour. Et bah, Raph, je te remercie beaucoup d'être venu.
Mais merci à toi d'avoir commenté ce show qui pourtant ne t'avait pas fait grande émotion, donc tu as fait ça avec professionnalisme. Bravo.
C'est vrai, on y a vu que du feu. Voilà, bah écoutez, moi je te remercie encore une fois et je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que l'émission vous a plu et je vous dis à bientôt et puis à la semaine prochaine en fait, si Dieu le veut. Ciao, ciao.
Bon SummerSlam à tous, ciao.